25. Les mœurs et la beauté. Il ne faut pas passer sous silence cet argument en faveur des mœurs, que chez chacun de ceux qui s'y soumettent entièrement, de tout cœur et dès l'origine, les organes d'attaque et de défense, tant physiques qu'intellectuels, s'atrophient. Ce qui permet à cet individu de devenir toujours plus beau. Car c'est l'exercice de ses organes et le sentiment correspondant qui rendent laid et qui conservent la laideur. C'est pourquoi le vieux babouin est plus laid que le jeune, et c'est pourquoi le jeune babouin femelle ressemble le plus à l'homme et se trouve donc être le plus beau. Que l'on tire de là une conclusion sur l'origine de la beauté chez la femme. Les animaux et la morale. Les pratiques que l'on exige dans la société raffinée. Éviter avec précaution tout ce qui est ridicule, bizarre, prétentieux. Réfréner ses vertus tout aussi bien que ses désirs violents. Se montrer d'humeur égale. Se soumettre à des règles. S'amoindrir. Tout cela, en tant que morale sociale, se retrouve jusqu'à l'échelle la plus basse de l'espèce animale. Et ce n'est qu'à ce degré inférieur que nous voyons les idées de derrière la tête de toutes ces aimables réglementations. On veut échapper à ces persécuteurs et être favorisé dans la chasse au butin. C'est pourquoi les animaux apprennent à se dominer et à se déguiser au point que certains d'entre eux parviennent à assimiler leur couleur à la couleur de leur entourage, en vertu de ce que l'on appelle les fonctions chromatiques. Assimiler la mort, adopter les formes et les couleurs d'autres animaux, ou encore l'aspect du sable, des feuilles, des lichens ou des éponges, ce que les naturalistes anglais appellent « mimicry ». C'est ainsi que l'individu se cache sous l'universalité du terme générique « homme » ou parmi la société, ou bien encore il s'adapte et s'assimile aux princes, aux castes, aux partis, aux opinions de son temps ou de son entourage. À toutes ces façons subtiles de nous faire passer pour heureux, reconnaissants, puissants, amoureux, on trouvera facilement l'équivalent animal. Le sens de la vérité lui aussi, ce sens qui au fond n'est pas autre chose que le sens de la sécurité, l'homme l'a en commun avec l'animal. On ne veut pas se laisser tromper, ne pas se laisser égarer par soi-même. On écoute avec méfiance les encouragements de ses propres passions. On se domine et l'on demeure méfiant à l'égard de soi-même. Tout cela, l'animal l'entend à l'égal de l'homme. Chez lui aussi, la domination de soi tire son origine du sens de la réalité, de la sagesse. De même, l'animal observe les effets qu'il exerce sur l'imagination des autres animaux. Il apprend à faire ainsi un retour sur lui-même, à se considérer objectivement lui aussi, à posséder, en une certaine mesure, la connaissance de soi. L'animal juge des mouvements de ses adversaires et de ses amis. Il apprend par cœur leurs particularités. Contre les individus d'une certaine espèce, il renonce, une fois pour toutes, à la lutte, et de même il devine, à l'approche de certaines variétés d'animaux, les intentions de paix et de contrat. Les origines de la justice, comme celles de la sagesse, de la modération et de la bravoure, en un mot de tout ce que nous désignons sous le nom de vertus socratiques, sont animales. Ces vertus sont une conséquence de ces instincts qui enseignent à chercher la nourriture et à échapper aux ennemis. Si nous considérons donc que l'homme supérieur n'a fait que s'élever et s'affiner dans la qualité de sa nourriture, et dans l'idée de ce qu'il considère comme opposé à sa nature, il ne sera pas interdit de qualifier d'animal le phénomène moral tout entier.